Bonjour, ici Pierre-Étienne.
Et Jonathan.
Et bienvenue à la table d'hôtes. Au menu cette semaine, quoi penser de la légalisation du cannabis et quels sont les impacts à prévoir dans le domaine culinaire? Le journaliste Gilles Dameneux de l'émission L'Épicerie nous aide à y voir clair. Ode à l'automne, c'est l'heure des canages, des ragoûts et de la bonne tarte aux pommes. Super efficace contre la dépression saisonnière. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast La Table d'Hôte, le seul podcast dédié à l'alimentation et au monde de la gastronomie. Joe, bonjour.
Salut Pierre-Étienne.
Salut. Écoute, aujourd'hui, grosse journée historique.
Oui, effectivement.
Donc, l'enregistrement aujourd'hui est le 17 octobre.
Ouais.
Et puis, c'est la journée de la légalisation du cannabis.
Oui, exact. Légalisation qu'on entend parler depuis... quelques mois, surtout. Hein? Oui, effectivement.
Puis on ne pouvait pas passer à côté de ça parce que, évidemment, oui, il y a le cannabis qu'on fume, mais il y a aussi le cannabis qu'on mange. Et puis c'est très, très différent en termes d'effets et tout et tout. Et puis aujourd'hui, pour en discuter avec nous, on a le privilège d'avoir Gilda Meneux, qui est chroniqueur resto depuis 20 ans au Ici, puis au Voir. Et il est désormais collaborateur au Guide Resto Voir. Il est également journaliste à la recherche à l'émission L'Épicerie de Radio-Canada, qui est diffusée le mercredi à 19h30 sur les ondes d'ici Radio-Canada Télé, Radio-Canada Télé. Voilà, alors bonjour Gilda, merci beaucoup de t'être joint à nous.
Bonjour Pierre-Étienne, merci beaucoup d'avoir invité, c'est une bonne idée.
Ben, c'est...
Je suis ravi d'être ici.
Non seulement c'est une bonne idée, mais en plus ce soir, à l'épicerie, vous lancez une émission spéciale qui est consacrée
à ça. C'est un reportage en fait, pas une émission, mais c'est un reportage qu'on voulait faire absolument justement. Et ça tombait bien parce que l'émission est le mercredi, on est le 17 octobre, ça ne pouvait pas être plus pertinent de le faire ce soir. Pas un reportage pour dire, pour donner des recettes avec le cannabis, plutôt un reportage pour donner des mises en garde. Comment utiliser, enfin, le cannabis, c'est quoi, puis comment on l'utilise et quelles sont les précautions à prendre pour éviter ben, les fameux bad trips, l'excès quand même. Là, on sait que le cannabis, c'est pas aussi dangereux que les drogues dures ou que l'alcool, c'est-à-dire que ça mène pas à la mort s'il y a une surdose, mais il faut quand même faire très attention quand on utilise le cannabis.
Ben absolument, parce que ça reste quand même que c'est une drogue. Hein.
Oui.
Bref, c'est sûr qu'il y a des distinctions à faire, il y a des sortes là encore. Je pense qu'on est tous un peu aussi au balbutiement de ça, c'est-à-dire qu'on connaît tous le cannabis dans notre vie, mais moi ce matin j'ai regardé pour le plaisir le site du SQDC et puis je me suis rendu compte que finalement j'en connaissais peut-être un peu moins que ce que je pensais sur la marijuana. Là,
c'est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Moi aussi, j'ai fait le même tour que toi là, pour voir. Et mon Dieu, je me dis, mais qu'est-ce que je vais acheter là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Comment on fait? Il faudrait un autre guide, un guide d'achat. Ça, c'est une autre histoire.
Oui, c'est assez complexe, effectivement. Si on regarde juste les quelques branches, les quelques branches principales, on entend souvent parler du indica, du sativa. Il y a même une branche hybride là-dedans. Fait que c'est vraiment différents effets recherchés. Puis je pense qu'en cuisine aussi, c'est le même principe là, à ce niveau-là. Là, on va utiliser différents cannabis pour aller chercher différents effets.
Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'effectivement, moi, je ne savais pas qu'on peut avoir des effets différents avec la sorte de cannabis.
Complètement, parce que le THC, c'est évidemment le plus connu. C'est le principe psychotrope que tout le monde recherche parce qu'il donne une certaine euphorie.
Oui.
À la SQDC, il y a des produits visiblement où il y a une part de THC plus importante, mais il y a une autre molécule qui est un peu moins connue qui s'appelle le CBD, qui elle est plutôt anxiolytique, qui va plutôt calmer, va plutôt relaxer. Okay. C'est pas le même effet du tout que le THC.
Okay.
C'est une molécule qu'on utilise plus dans le mode thérapeutique pour soigner, parce que ça va aussi soigner les douleurs, ça va soulager les douleurs un peu à la manière d'un Tylenol ou
admettons qu'on recherche un effet plus pour rire entre amis, c'est un type, mais si moi, admettons, je veux m'en servir pour mieux dormir, admettons, ben là, je vais peut-être plus me rabattre sur une autre, un autre type.
Et puis, il y a les hybrides qui ont les deux. Alors, après ça, il y a une part, il va y avoir, je ne sais pas moi, 15% de THC puis 5% de CBD. Oui, il va y avoir 5 et 5. Voilà. Donc, ça va être très variable. Alors, lequel choisir là-dedans? Moi, je ne suis pas là pour vous donner de conseils là-dessus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que et qui est intéressant, c'est que le cannabis en soi, d'abord séché, là, parce que c'est la cocotte qu'on connaît traditionnelle, là, n'a aucun effet si on la mange telle qu'elle. C'est-à-dire que cru, le cannabis n'a aucun effet sur le corps.
Ouais.
Il faut qu'il soit chauffé pour qu'il ait un effet. Alors, c'est pour ça qu'on le roule dans un joint et qu'on le brûle. Ça lui permet d'activer le THC, d'activer le CBD et puis d'avoir l'effet recherché.
Mm-hmm.
Sinon, il faut, en, si on veut l'utiliser en cuisine, alors il y a le, tu as parlé, on en parlait juste avant de d'enregistrer, le fameux beurre de Marrakech, c'est comme ça que tu l'as appelé, Jonathan?
Oui, ben.
Parce que le THC adore le gras, il a besoin du gras et de la chaleur pour s'exprimer. Une fois que tu vas infuser, par exemple, du THC ou une cocotte qui contient du THC dans du beurre que tu vas faire chauffer et que tu vas tranquillement faire mariner entre quelque sorte à la chaleur, là, il va s'activer. Et puis, c'est ce gras-là qu'ensuite, tu vas utiliser, si j'ai bien compris, dans les recettes.
Ouais.
Mais le gros problème, c'est la dose.
Effectivement, c'est un peu là où je voulais m'en aller tout à l'heure parce qu'on avait la discussion où moi, j'avais une discussion avec ma copine un moment donné parce qu'évidemment, c'est dans l'air, on en parle tous. Là, je suis sûr, Jonathan, que tu en as parlé avec ta copine aussi. On en parle tous avec nos amis.
Oui, effectivement.
Puis, tu sais, je me rappelais d'une époque où on s'en faisait des brownies aux potes. Et puis,
brownies aux potes.
Je m'étais dit, moi, j'ai déjà été fumeur dans ma vie, fait que je ne suis pas intéressé à retourner, à recommencer à fumer simplement par habitude. Je n'ai pas envie de me relancer là-dedans. Mm-hmm. Par contre, si j'avais essayé ce produit-là, j'essaierais probablement sous forme alimentaire. Donc, on va dire des brownies là, pour le
mais ça peut être n'importe quel dessert, biscuit, quelque chose qui contient...
Même de la crème glacée, on pourrait.
Ouais, du moment que c'est gras, il n'y a pas de problème.
Ouais, exactement, c'est ça.
Mais c'est ça, on en jasait du point de vue que moi, je pourrais en prendre une certaine quantité, mais elle ne serait pas intéressée parce qu'elle ne saurait pas vraiment quel impact ça aurait sur elle-même.
Bien sûr. C'est ça. C'est un problème, et on en a discuté dans le reportage, j'en ai parlé en préparant le reportage avant, à un chef pâtissier qui travaille pas loin d'ici, à la clinique de la Croix-Verte, qui s'appelle Simon Salomon. Et lui, il prépare habituellement donc toutes sortes de sucreries, mais pour les patients de la clinique. Et alors, il travaille vraiment au micro-dosage, c'est-à-dire qu'il y va aux 10 mg près, et son principal défi quand il prépare une recette, que ce soit des brownies, du sucre à la crème, peu importe, là, des jujubes, il fait toutes sortes de choses, c'est d'y aller goutte par goutte. À la SQDC, il va en faire sous forme d'huile. Hein.
Okay.
Alors lui, il l'utilise sous forme d'huile parce que c'est le plus simple. L'idée, c'est d'utiliser par exemple une goutte de cette huile-là qu'il va intégrer dans tant de volume de préparation de façon à ce que l'effet soit le même d'un dessert à l'autre, si tu veux, parce qu'en plus, lui, il le fait pour des patients qui sont sous contrôle médical, donc il faut absolument... Alors, mais c'est une bonne piste. C'est-à-dire, et c'est ce que nous dit aussi l'autre expert dans le reportage, c'est allez-y avec d'abord des doses infimes, regardez comment vous vous comportez, et puis ensuite, vous allez pouvoir ajuster. Mais ça va dépendre aussi du... pote que vous avez choisi. Alors évidemment, si on veut faire des essais, il faut toujours prendre le même.
C'est la même sorte.
L'avantage qu'il va y avoir avec les produits de la SQDC, c'est qu'ils sont contrôlés. C'est-à-dire quand ils disent qu'il y a 15% de THC, ben, il y a 15%, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 30, il n'y en a pas 10, il y en a... Donc, d'un produit, normalement, c'est des produits normés qui sont les mêmes tout le temps.
Il y a aussi le fait de consommer du cannabis en le mangeant. Le délai de réponse ou le délai d'absorption n'est pas le même.
Du tout.
De fumer du cannabis va être beaucoup plus rapide que de le manger. Donc, si on part du principe d'y aller à petite dose, ben, généralement, on parle d'environ une heure avant de ressentir les effets.
Ben c'est ça. Si on peut juste voir, dans le fond, c'est quoi la différence entre le fumer et le
manger? Quand on le fume, c'est pas compliqué. Ça prend entre 30 secondes et 2 minutes, l'effet. Donc, on l'inhale, ça va dans les poumons, ça va dans le sang, ça monte au cerveau. Bang! L'effet est ressenti.
Ouais.
Quand on va l'ingérer, tout dépend, il y a plein de facteurs. Là, tout dépend de son état mental, de son état physique, de son état de fatigue, de ce qu'on a mangé avant ou pas. Si, par exemple, si on est à jeun, c'est absolument pas recommandé de manger un brownie. Là, parce qu'à jeun, ça va aller très rapidement. Et surtout, ce qu'on explique dans le reportage, c'est que le pot, quand il est ingéré, il va être assimilé par le foie. Et le foie va le décomposer, ce THC, en... sorte de molécules psychotropes et là qui vont aller s'agripper dans tous nos récepteurs de cannabinoïdes qu'on a dans le corps, donc il va être décuplé à quelque part. Donc,
décuplé,
donc il va être encore plus puissant.
Qu'est-ce qu'on avait mangé auparavant chose?
Pas nécessairement, c'est-à-dire que si on est à jeun, c'est sûr que ça va aller plus vite et plus fort.
Okay.
C'est le pire scénario. Quand on a mangé avant, ça va prendre beaucoup plus de temps, tu parles d'une heure, ça peut aller jusqu'à 3 heures.
Oh, quand même.
Prendre son temps parce que la digestion se fait, ça dépend de ce qu'on a mangé avant et de combien de temps ça prend à digérer ce qu'on a mangé.
Oui.
Parce que ça va aller dans le bol alimentaire, puis tranquillement ça va descendre, puis ça va être bon. Donc tout dépendamment de ce qu'on a mangé. Et bon, donc ça prend du temps à ingérer, ça prend du temps, pardon, à être assimilé, ça prend du temps à rebondir. Mm-hmm. Et ensuite de ça, on ne connaît pas non plus nécessairement d'avance le temps que ça va durer.
Est-ce que ça varie encore Est-ce que ça varie par rapport à la sorte aussi, ça? Ou...
Bien sûr que ça va varier par rapport à la sorte du cannabis et de son taux de THC et de son taux de CBD qui est à l'intérieur.
Ben, c'est ça, j'ai vu évidemment. Sur le site de la SADC que ça pouvait partir de 4 heures, aller jusqu'à 12 heures.
Oui. Oh, quand même. Le microbiologiste dans notre reportage nous parle même d'effets. Bon, c'est plutôt rare, mais ça peut aller jusqu'à 72 heures, 3 jours d'effets chez certaines personnes.
Mais vraiment, au bout de 48 heures, on peut encore sortir des effets?
On parle ici de cas exceptionnels où il y a eu une forte dose et où la personne a tel et tel état. C'est très difficile. On peut jamais prédire, et c'est un peu ça le problème avec ce produit-là, c'est qu'on peut jamais prédire comment toi tu vas réagir. T'as beau avoir le même produit et on te dit « Ah mais celui-là est euphorisant, il est plutôt calmant, tu vas voir, c'est relax. » Ok, peut-être, mais... Qu'est-ce qui va vraiment arriver dans les conditions? On ne le sait pas. Et en plus, il y a aussi, est-ce que tu prends des médicaments ou pas?
Ah oui.
Est-ce que tu prends de l'alcool? Combien tu as pris d'alcool? Alors, tout c'est plein de facteurs qui font qu'on ne peut pas vraiment répondre à la question aussi simplement que de dire, ah ben, je peux te garantir que cet effet va durer tant de temps, il va être de tel type, puis ça va être fini dans combien de temps?
C'est ça, comparé à l'alcool, admettons qu'on peut dire une personne d'une telle taille, avec tel gabarit, deux bières, il n'a plus le droit de conduire. Tandis que là, on ne sait pas, quelqu'un qui va prendre deux puffs sur un joint peut ne pas être en état de conduire, alors qu'un autre va avoir...
Mais même encore là, même avec l'alcool, c'est le même principe. Moi, je pense que c'est le même principe avec l'alcool, malgré que deux personnes de même gabarit n'auront pas les mêmes effets de la même façon. T'sais, si je regarde moi et ma conjointe, avant de ressentir les effets vraiment... faut qu'elle boive beaucoup plus que moi. Fait que j'imagine qu'avec le cannabis, c'est le même principe.
Il y a des gens qui sont plus résistants à l'alcool que d'autres, c'est vrai. Puis là aussi, regarde, à jeun, de l'alcool va faire beaucoup plus d'effet que si tu as mangé. C'est exactement la même chose.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande. Parce que, alors, pour finir sur la dose, justement, ce que nous dit le spécialiste dans le reportage, c'est que, donc, on y va avec... il faut y aller avec des doses vraiment infimes pour commencer. À quelque part, il faut apprendre à se connaître par rapport au produit. Et puis, il ne faut surtout pas faire l'erreur, par exemple, de se dire, parce qu'on n'a pas attendu 2-3 heures que ça fasse effet, justement, de se dire, voyons, ça ne fait pas d'effet, j'en remange un autre ou j'en mange deux autres.
Ouais.
Et c'est là où le problème peut arriver, parce que tout d'un coup, là, t'en manges deux plus que le premier, et là, tout d'un coup, les effets vont être décuplés, vont durer beaucoup plus longtemps, puis là, c'est la mauvaise surprise.
Ouais.
Moi, ça me rappelle une histoire en particulier où, justement, quand j'habitais à Toronto il y a plusieurs années, la copine d'un de mes amis avec lequel je vivais, pour ma fête, avait décidé de me faire un beau plan Pyrex de brownies aux potes. Puis, à un moment donné, un samedi, je m'en allais voir un film comédie au cinéma. Puis, juste avant d'y aller, je jouais avec mon ami au PlayStation. En jouant, j'avais faim. Fait que je disais, tiens, je vais en prendre un morceau. Puis, sans m'en rendre compte, je jouais. Puis, je prenais un deuxième. Puis, un troisième, sans me rappeler que c'était des brownies au pot. Ça goûtait pas. Il n'y avait aucun goût. Il n'y avait aucune façon de le savoir, là, au goût. C'était ça. Jusqu'à temps que je me rende compte que, hey, merde, je viens de manger la moitié du plat, moi, tout seul.
Oh, mon Dieu. Aïe, aïe.
Mais je peux dire que le film était très, 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 très drôle. J'ai eu un excellent film.
Ah, c'était super. Dieu.
Mais j'étais extrêmement affecté. Ça, je peux le dire. Heureusement, je ne conduisais pas. Le cinéma était à 10 minutes à pied. J'ai eu du bon temps. J'ai pas bad trippé non plus.
Puis ça n'a pas été trop difficile de rentrer à la maison, de retrouver son chemin?
Tout a bien été. Tout était correct. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas. C'est plus dur de s'en sortir. C'est plus dur de doser. Effectivement, même à l'intérieur. Puis on dit, une fois qu'on est dans cet état-là, on fait « Ah, merde ». Je suis pogné à le vivre, ce buzz-là, puis je dois passer au travers parce qu'il n'y a rien à faire.
Il n'y a rien à faire. Il
n'y a rien à faire. Le microbiologiste me disait que, mais bon, moi, je ne ferai pas l'expérience, puis surtout pas la conseiller à personne, mais un jour, ça sera peut-être étudié, c'est que le fameux CBD, là, qui est un peu le contraire du THC, donc qui a un effet contraire, ça serait une des solutions pour calmer un bad trip. C'est-à-dire que si un bad trip, il me dit... prendre une ou deux gouttes de CBD pourrait aider à calmer la personne qui est en train d'en avoir trop ingéré.
Ça serait la contre... soigner le pote par le pote.
Oui, une espèce d'antidote. Oui, exact.
Mais ça, c'est ça quelque chose qui m'avait un peu... pas traumatisé, mais c'était justement l'effet de... Bon, comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cet effet-là une fois qu'on est pris avec?
Il y a un autre truc, c'est la... Il y a un phénomène quand on ingère du cannabis, c'est la déshydratation. Et le fait de boire beaucoup d'eau aussi ou de remanger va ralentir la digestion et donc peut ralentir l'effet. Donc c'est une autre façon de se débarrasser si encore une fois on sent qu'on en a trop mangé.
Puis c'est ça, une autre chose. Tu sais, mettons un joint, souvent, il y avait le super cercle d'amis avec lesquels on fumait où on se passait le joint d'une personne à l'autre. Puis souvent, le temps entre le moment où on avait la puff puis le moment où on récupérait la puff, il se passait ça environ entre 30 secondes et une minute et demie. Fait qu'on pouvait savoir à un moment donné, OK,
j'en ai assez. Ouais.
J'ai atteint mon niveau. Là,
alors que c'est impossible avec le dessert.
Exactement.
C'est vraiment impossible parce qu'il y a trop de délais pour le savoir.
Puis il est trop tard, par le temps que ça arrive, il est déjà trop tard.
Et comme tu l'as dit tantôt et dans ton exemple, ça goûte pas. Donc,
exact.
Tu, c'est bon du dessert, fait que t'en manges.
Ça, c'est évidemment l'effet en plus de donner de l'appétit, parce oui. que bon, parmi oui. les effets, il y a le côté euphorisant, mais il y a aussi, vous le savez, le côté stimulant d'appétit, alors qui pourrait donner l'envie d'en manger un autre petit dessert, alors que ça ne devrait pas être.
Ben, ce qui m'est arrivé entre autres avec mes brownies. Là,
et puis ça aussi, ça altère la mémoire, hein, le cannabis.
Ah oui.
Ça altère la mémoire à court terme. Alors ça ralentit le temps aussi. Donc parfois les gens vont être un petit peu justement coupés de la réalité parce que ils savent plus à quel moment ils ont mangé. Ils pensaient que c'était il y a longtemps, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, tu sais, toute cette espèce de... Alors, il y a aussi... C'est un conseil tout bête, là, mais déjà, de ne pas être seul quand on le fait, c'est ouais. une bonne idée. Tu sais, d'être accompagné, c'est bien parce que l'autre peut regarder comment tu te comportes. Il peut t'aider. Si tu ne te sens pas bien, il peut te soutenir. Il peut te dire, attends, je vais te donner de l'eau. As-tu une pomme? Regarde, tu vas manger une pomme, ça va faire du bien. Enfin, quelque chose ça. Qui va faire qu'on va relaxer et que ça va faire que ça va mieux se passer.
Mais c'est ça, je pense que quand tu arrives dans un moment de bad trip, là, puis je parle pas en connaissance de cause, là, mais je pense que de ce que j'ai lu, c'était vraiment d'isoler la personne, de la mettre dans un endroit calme,
exact,
d'en prendre soin. Puis de... Fait que ça fait partie un peu peut-être des recommandations oui. là, si on tente l'expérience de manger.
Ben, surtout que ce bad trip-là, en général, il va être on va le ressentir par une certaine panique. Ouais. Par une crise, ça peut être des crises de panique ou d'anxiété un peu trop fortes, le cœur mm-hmm. qui débat, tu sais, cette espèce de... Alors ça, c'est extrêmement désagréable. Donc effectivement, allongé dans le lit avec quelqu'un qui te rassure, qui te dit « tu vas bien aller, bois un verre d'eau, mange des fraises, regarde... » Et puis ça va passer. Ouais. Ça va passer, puis ça ne va pas prendre 3 heures. Ça va passer.
Non, c'est ça.
Et puis, il n'y a pas de risque que ça dégénère plus que ça, je veux dire. Là, ça va éventuellement revenir, à moins évidemment d'avoir mangé des doses de cheval, là.
Oui, mais puis en réalité, je pense que pour une surdose mortelle, de ce que je lisais, c'est quelque chose comme 1500 livres de fumée. Là. Quand on parle de fumée, c'est 1500 livres aux alentours de 15 minutes. Ce qui est un peu impossible à faire.
C'est un petit peu impossible. C'est un petit peu comme dire que manger une noix de muscade, ça tue. C'est vrai que manger une noix de muscade au complet, tu vas mourir. Mais ouais. personne ne va manger une noix de muscade
qui
au complet.
Va manger ça?
Si ouais. tu manges 10 kilos de romarin, tu vas mourir. mais tu ne mourras pas. Mais je veux dire, c'est ça la réalité. Donc, on ne peut pas atteindre ce niveau-là. Ouais. Donc, c'est vrai que dans la littérature, de ce que me disait le microbiologiste, on n'a pas de cas de décès lié à une surdose de cannabis, contrairement à d'autres drogues. Alors, ça, c'est le côté un peu rassurant, mais ce n'est pas une raison pour se dire « je fais n'importe quoi », mais non, vraiment pas.
On parle justement des effets, du fait qu'on ne peut pas prédire d'une personne à l'autre comment on va réagir à ça. Est-ce qu'on peut croire à ce moment-là que, mettons, à l'opposé d'une bouteille de vin, on ne pourra pas vraiment inclure ça dans un party entre amis de façon sécuritaire, là, si on veut, parce que la seule personne qui sait réellement le montant de THC qu'il y a dedans, c'est la personne qui l'a fait. Fait qu'à moins qu'on ait des doses très légères, puis de toute façon, ça va être quoi de le manger ensemble? Parce que si... dans 3 heures, l'effet embarque, puis que là, le souper est fini, surtout si on est rendu au dessert, ben où l'intérêt, à ce moment-là, de servir ce genre de plat-là?
C'est une très bonne question. Ouais. Effectivement, ça n'a pas l'air très pertinent.
Non, c'est ça. Ça serait de le mettre en entrée, à la limite, mais généralement, c'est dans les desserts ou des trucs comme ça.
Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui empêche de l'utiliser dans des recettes salées, cela dit.
Non, mais personnellement, le cannabis frais, moi, je trouve que ça sent bon. Je trouve que c'est quelque chose d'aromatique, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à mettre dans des salades ou des choses comme ça. Bon, une fois fumé, personnellement, c'est moins agréable, là, mais
comme je te disais, si tu utilises comme ça, tu n'auras aucun effet.
Parce qu'à cru, il n'y en a pas.
Mettons, on décide d'utiliser le pot pour juste sa saveur et sans les effets psychotropes. Si on le cuisine de façon crue, techniquement...
Achète-toi du chanvre et puis fais la même chose.
Ça va coûter pas mal moins cher.
Tu peux, oui.
Lors de votre reportage, est-ce que vous avez un peu sondé, voir à l'avenir? Parce que là, je sais que présentement, on ne peut pas vendre au Québec de produits qui se mangent.
Des produits alimentaires, oui.
Produits alimentaires.
Avec du pot.
Exact. Dans le futur, on ne ferme pas la porte. On dit que c'est probablement quelque chose qui peut arriver, mais pour le moment, ce n'est pas inclus. On jasait tout à l'heure avant d'enregistrer.
C'est-à-dire que oui, c'est prévu. En fait, c'est prévu. prévu par le cadre réglementaire qu'à partir de 2019, il y ait, mais c'est pas clair encore de quelle façon ça va être fait, qu'il y ait des produits alimentaires qui soient disponibles dans le commerce. Et on voit là en ce moment qu'il y a plein d'entreprises alimentaires qui s'intéressent à ce filon qui pourrait être très intéressant pour les entreprises. Là. Mm-hmm. Mais reste encore quand même à savoir qui va les vendre, ces produits-là. C'est-à-dire que... parce que là, la SQDC n'a pas dit qu'elle avait pour mandat de vendre autre chose que les produits qu'ils vendent actuellement, c'est-à-dire commencer à vendre des brownies ou des jujubes ou des desserts ou n'importe quoi à base de cannabis. Puis je ne pense pas qu'ils iront là. Ils vont peut-être laisser le marché alimentaire le faire lui-même. Mais alors, ouais. Comment ça va être encadré? Ça, c'est la question qui tue. Parce que oui, tu veux aller chez Provigo, chez Metro, puis trouver un dessert au cannabis, mais qu'est-ce qui va... Alors, comment ça va être étiqueté, comment on va savoir ce qu'il y a dedans, à quelle dose, quels sont les effets potentiels. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses encore à ce niveau-là. Il y a une ouverture. On sait qu'éventuellement, ça va arriver. C'est 2019, 2020, je ne sais pas quand. Ça va arriver, mais alors sous quelle forme? Mystère.
C'est vraiment un problème de société. Enfin, pas un problème, mais c'est une nouvelle réalité avec laquelle on va devoir vivre.
Oui.
On verra peut-être que les prochains gouvernements reverseront la tendance, quoique il y a tellement d'argent et d'énergie qui ont été dépensés. Je pense que, personnellement, je pense que c'est là pour rester. Il va falloir s'y faire. C'est pas facile pour certaines personnes, mais on va tout devoir s'adapter. Là.
Ce qui va être intéressant de suivre dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est de voir la consommation. Parce que maintenant qu'on a des magasins officiels, on va enfin pouvoir faire de la statistique. Parce que la statistique précédente, elles étaient basées sur des sondages, elles étaient basées sur des gens qui veulent bien dire oui ou non, je fume, j'en mange.
Ouais.
Mais qu'est-ce que ça vaut sur le plan statistique? Pas grand-chose. On dit que 43% des Canadiens fument. Oui, mais à quel rythme? À combien de temps? Est-ce que c'est souvent? Pas souvent. Bon, on sait que chez les plus jeunes, c'est plus fréquent et que plus on vit, moins on fume et moins on en consomme. Après ça, là, ça va être le vrai test de la réalité qui commence. On va pouvoir documenter ça va être intéressant. Les chercheurs dans les universités vont enfin pouvoir travailler avec du matériel. Parce que le gros problème qu'ils avaient dans les années précédentes, c'était d'obtenir le produit, puisqu'il était illégal.
Puis la licence aussi pour pouvoir
travailler avec et pouvoir faire les recherches. Donc, toutes les recherches qui ont été faites sur le cannabis, elles existent, mais c'est un produit qui est très peu documenté par rapport à l'alcool, par exemple. Donc, il faut regarder ça sur un horizon là, de 1, 5 ans, 10 ans, où on va énormément apprendre sur ce produit. Ouais. On va énormément apprendre sur nos comportements comme société, puis comment on le consomme. Et puis, on verra si, à l'instar du Colorado, où on a vu que, dans le fond, la consommation a un peu baissé après des ventes très croissantes, même chez les jeunes, ça a baissé. On n'est pas le Colorado, on est le Québec. Mmh. Le Québec est différent, mais on verra avec l'Ontario. Écoute, c'est plein d'inconnus. Et c'est ça qui est intéressant dans ce... Et puis...
Mais en l'ayant légal aussi dans un pays comme ça, on peut vraiment voir aussi, tout dépendant de l'endroit où on est, et puis par quartier, par ville, par province, voir l'impact aussi. Province plus pauvre versus les plus riches. Est-ce qu'il y a vraiment un impact et tout et tout? Et non seulement ça, oui, les chercheurs avaient de la misère à aller chercher les subventions, mais là, maintenant, en plus, ils vont peut-être avoir les fonds pour le faire.
Exact.
Parce que le mandat même de la SQDC, la SQDC n'a pas le droit de faire de profit par rapport à ça.
Exact.
Doit être investi dans la recherche ou dans l'élaboration d'autres magasins.
Ou de programmes de prévention.
La prévention aussi.
Oui.
Bref, on n'a pas fini d'en entendre parler. Je pense qu'on va en avoir encore pour plusieurs temps. Je te remercie énormément de ton temps. On rappelle que l'émission L'épicerie est diffusée à Radio-Canada les mercredis à 19h30, ce soir le 17 octobre, mais pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de...
C'est disponible sur le web, bien entendu.
Sur le web.
Ça va être sur Facebook, ça va être sur le web, sur tout.tv. C'est impossible de ne pas le voir.
Alors, à suivre. Merci énormément.
Merci beaucoup. Abonnez-vous au podcast via votre plateforme préférée iTunes, Spotify et Google Play pour recevoir automatiquement le tout dernier épisode de La Table d'Hôte. Et pour tout savoir sur les sujets et les invités de la semaine prochaine, visitez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter en cherchant le @ Table d'Hôte QC en un mot et sans accent. On attend vos commentaires et suggestions. Vous pouvez également nous encourager en nous donnant 5 étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires sur l'émission.
Bling bling, on aime ça parce que, tu sais, quand même, on fait ça pour vous, puis on veut faire pour un maximum de personnes. Fait qu'ayez pas peur, hein. Partagez ça avec vos grands-mères, vos tantes, vos mononcles.
Ouais.
Tu sais, des matantes, des mononcles sur. Je sais pas.
sur les internets.
C'est un maudit préjugé que j'ai.
Ouais, effectivement. Que c'est, parce qu'elle est bonne, notre émission de radio.
Ben, en 2018, là, les préjugés, il faut que ça tombe.
À quel poste t'écoutes
tabous,
ça?
Les tabous, il faut que ça tombe. C'est fini.
Hey, l'automne.
Aujourd'hui, l'automne. Ouais. Écoute, quelle belle journée en plus pour acheter quelque chose d'automne. Fait assez frette dehors.
Ouais.
Les feuilles commencent à tomber. On est dedans. Écoute, hier, c'était la première fois que je partais le chauffage chez nous. J'ai parti le chauffage la première fois dernièrement. Oui. Et puis, il y a un petit quelque chose quand tu pars le chauffage. Tu sais, c'est fini l'été.
Ouais, ça sent de brûler.
Ça sent de brûler parce qu'il y a toute la poussière qui brûle.
Mm-hmm. Effectivement.
Tu sais, c'est aussi niaiseux que le fait de partir le chauffage hier, j'avais envie de manger une soupe. C'est comme, tu sais, c'est pas l'affaire qui m'arrive l'été de manger une soupe. Mais hier, là, je disais à ma blonde, on se fait une bonne soupe pour souper. Puis c'était vraiment. Écoute, ça partait la saison. Ça partait la saison, selon moi. Puis pour tous les Québécois, tu sais, enfin, l'automne, l'automne fait partie de la vie de tout le monde ici. Notre été, malheureusement, est plus court qu'à Miami. Hein? On va se le dire déjà de base.
Un petit peu. Puis, hein, on s'entend.
C'est un peu là où on peut dire qu'on on récolte un peu le fruit de nos efforts, surtout du côté jardin. On va avoir justement jardiné tout l'été, on a des tomates, on a des fèves, on a des courges, effectivement. Ouais. On a beaucoup, beaucoup de choses qu'on veut conserver pour l'hiver parce que l'hiver s'en vient. On a passé tout l'été, on a donné tellement d'efforts. Ça serait pas là de tout perdre jardin.
Oui, exactement. Mais en fait, c'est là où c'est le plus intéressant, aller chercher les récoltes. Fait que, tu sais, on pense que quand que l'été est fini, bah, c'est fini, on sort le barbecue, on sort la mijoteuse, puis on part les mijoter, puis, toutes ces affaires-là. Mais moi, personnellement, l'automne, c'est ma saison préférée, un peu pour ça. Parce que c'est là qu'on va chercher toutes nos récoltes. C'est les courges qui arrivent à ce moment-là, les oignons, les patates qui sont prêtes. Mais des fois, les patates, ça peut arriver un peu avant, mais généralement, c'est un peu là. Fait que c'est là qu'on va récolter tous ces trucs-là. Bon, aujourd'hui, avec la mondialisation, préparer notre hiver, c'est pas aussi intense qu'avant.
Que dans le temps,
c'est ça. Oui, que dans le temps, exactement. Là. T'sais, on s'entend que, bon... Moi, je fais du canage, je fais déshydrater aussi des choses. Ça, c'est nouveau, ça, la déshydratation pour moi. J'ai commencé ça, surtout des fruits. Puis c'est hallucinant à quel point mes enfants capotent là-dessus. Fait que...
La capote de pomme, entre autres.
Oui, la capote de pomme, exactement.
mais c'est ça, tu sais, l'automne, c'est synonyme de comfort food aussi. C'est, l'alimentation change aussi au fur et à mesure que l'automne avance. Mm-hmm. C'est là qu'on va commencer à sortir les raclettes, c'est là qu'on va commencer à faire de la fondue aussi pour l'hiver.
Oh my God, parle-moi pas ces raclettes.
Oh, c'est bon. C'est de valeur.
Que j'ai hâte d'en manger. Mais pourquoi, là,
tout d'un coup? Pourquoi ça pogne aussi? Je veux dire, la raclette, en plus, ça fait plein de fumée puis ça sent pendant deux jours après dans ta maison. Hey,
ton linge sent au complet. Ton linge, tout, les rideaux, tout sent.
Mais c'est tellement meilleur l'été parce qu'on peut ouvrir les fenêtres, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On est pogné avec.
Je pense que c'est la chaleur de la raclette, le fromage puis tout ça. Mais j'ai des amis qui ne trippent pas pantoute là-dessus. Hein.
Non, oui.
Là, ils disent, hey, pourquoi prendre deux heures à manger quelque chose qui pourrait m'en prendre cinq minutes?
Ben oui, mais c'est pas
possible. Passe-moi ça dans poêle, fais-moi gratiner ça dans le four. M'a tout mangé mon assiette, ça va être réglé. Mais moi, je pense que c'est le plaisir.
Moi, je pense qu'avec la fondue, c'est la bouffe pour recevoir par excellence. Parce
fondue
que
raclette,
on se fait tout à manger ensemble. On se rassemble tout autour d'une bonne table. C'est un peu ça aussi. Je veux dire, pas qu'on mange pas l'été, mais je veux dire, l'automne, de se retrouver soit en famille ou tout ça, autour d'une table. Et surtout, je pense que le côté comfort food, c'est parce que ça nous réchauffe l'âme. L'âme qui est en train de perdre sa chaleur à cause qu'elle était partie, ben on la récupère en mangeant. Est-ce que c'est parce qu'on fait de réserve pour l'hiver? Je le sais pas. Je le sais pas. Mais on a tendance à manger toujours un petit peu plus costaud.
Oui, exactement. Peut-être qu'on fait des réserves. On dirait que tu es poétique aujourd'hui, hein, je t'entends. Là, pis, ça sonne comme un poète.
Ah, je me sens comme ça quand je vois les feuilles tomber. Là, je pars dans mon esprit. Ode à l'automne. Voilà. Parlant d'automne, tu sais, écoute, je ne peux m'empêcher. Présentement, on enregistre le podcast dans la cuisine à Jonathan.
Yes.
Et ça m'a toujours fasciné parce que Jonathan, il y a un mur complet de tablettes remplies de pots maçons, remplies de différentes choses. Ouais. On a des carottes, je pense des bananes séchées ici. Écoute, on a plein de choses. Je pense que la meilleure personne ici pour nous parler de canage, c'est Jonathan. Et puis, ça tombe bien parce que justement, en automne, on ne veut surtout pas perdre ce qu'on a pris. On a mis tant d'efforts à cultiver.
Exactement.
Pour nous, c'est quoi tes conseils? Quand on veut faire un canage, qu'est-ce qu'il faut privilégier et qu'est-ce qu'il faut éviter?
Ben, premièrement, je dirais faire du canage qu'on va avoir le goût de manger. Parce que, bon, à un moment donné, on dit, ah, on veut se lancer dans le canage, pis ça, bon, je vais faire des betteraves marinées, pis ça. Mais tu sais, si finalement des betteraves marinées, t'aimes pas ça ou t'aimes pas ça des betteraves, Il n'y a pas de canage là-dedans.
De base, de base.
Non, mais c'est vrai, tu sais, parce que, tu sais, je me suis lancé, ça fait pas si longtemps que ça que je me suis lancé dans le canage. Et puis, j'ai fait ça avec ma belle-sœur, ce canage-là. Puis, écoute, on s'est clenché ça à trois. On était trois, ça a pris... puis ça c'est un tiers hein, de
C'est juste le tiers.
C'est juste le tiers de tout ce qu'on a fait en deux jours.
Wow!
Mais habituellement, ce qu'elle me comptait, c'est que elle, habituellement, a fait à peu près la même quantité qu'on a fait pour les trois, mais à elle seule, ça y prend à peu près une semaine à faire. On s'est clenché ça en deux ou trois jours. Fait en fait, du canage, là, c'est vraiment c'est une production. Tu sais, puis moi, j'aime ça de la production avec la business que j'ai. C'est souvent des aliments qui vont être quand même assez acides. Bon, tomates. De base, on n'a pratiquement rien à rajouter. C'est super acide, fait que ça va se conserver super bien. Sinon, ben, on va faire des fruits et légumes marinés. Bon, des fruits marinés.
Plus comme un ketchup rendu là.
Oui, c'est ça, c'est un ketchup. Mais effectivement, ben, ça aussi, c'est acide. Ou sinon, on va dans le très sucré, des confitures, des trucs comme ça.
Ben,
ça.
Des cornichons, dans le fond, sucrés.
Oui, des cornichons sucrés, c'est ça. Fait que ça prend vraiment... faut jouer beaucoup avec le pH. Faut que ça soit un pH qui soit assez fort soit assez fort en acide, ça va conserver facilement. Ou sinon, l'autre façon de le faire, c'est d'avoir quelque chose de très sucré, comme des confitures. Le sucre, il va conserver facilement. Moi, mes préférés, ça reste betterave. Sinon, des cornichons, j'adore faire des cornichons. Et puis cette année, l'an passé, j'ai essayé toutes sortes de légumes, puis j'ai rajouté des piments forts dedans.
Ah,
et
okay.
Puis, c'était vraiment, vraiment débile, vraiment très bon. Et puis, il me restait plein de piments forts. Ça, c'est très drôle. Il me restait plein de piments forts. Puis, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de piments forts, puis beaucoup épicé dans la vie. Mais je me suis dit, OK, il me reste de la marinade, il me reste des piments forts. J'ai tout mis ça ensemble. Puis, j'ai fait un pot de piments forts que j'ai mis dans mon armoire. Mais pas dans mon armoire, mais dans mon étagère à canage. Puis, pas plus tard que voilà deux semaines, il y a un de mes amis qui est venu à la maison. Puis, il dit, hey, c'est donc bien malade, un pot de piment mariné, ça doit tellement être bon. J'ai dit, ben tu sais-tu quoi? Je te le laisse. Pars avec, mange-les, parce qu'honnêtement, moi, il est là, puis je mange pas assez épicé, tu sais, je vais le sortir, puis tout ça. J'aime bien les petits piments, je pense que c'est des pecorino qu'ils appellent, ou je me rappelle pas exactement du nom. C'est bon, une fois de temps en temps.
Mais t'as-tu eu l'occasion de goûter
à ces piments forts-là? Ouais. Non, mais je n'ai entendu parler, par exemple.
Ah ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit?
Il me dit, avec la marinade sucrée, c'était très bon, c'était très doux. J'ai mangé ça et c'était très doux. Mais c'était moins doux après ça le lendemain. C'est là. J'ai dit, ouais, ben c'est sûr, il ne faut pas que tu te lances le pot au complet quand même. Là. Mais ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de misère à digérer des jours suivants parce que ça reste que c'est des piments forts avec la capsaïcine. Hey, j'étais sûr, je m'en allais dans ce mot-là. Je me suis dit, je vais bien le dire puis je ne vais pas m'enferger. Ben non.
Capsaïcine,
je me suis enfergé dedans. Ouais. Sinon, pour revenir aux conserves, une chose que je vous dirais de faire attention. Bon, mes grands-parents, puis encore, j'ai quelques tantes qui font ça. Ils font du ragoût de pâte, du poulet, des boulettes de viande en conserve que tu gardes température pièce.
Fait qu'ils les font? Ils les font, ouais, des boulettes?
Oui, exactement. Comme
ils font leur propre chef boyardier, grosso modo.
Oui, un peu ça. Le problème avec ça, c'est que quand on garde le canage industriel puis tout ça, c'est passé à l'autoclave.
Versus, c'est quoi ça, l'autoclave?
OK, ben, l'autoclave, c'est un espèce de grand four humide, haute température, où tu vas mettre les aliments dans tes conserves, tu fermes les conserves, tu mets ça là-dedans, puis ça va cuire les aliments, et puis ça va les pasteuriser, si on veut. Ça enlève comme toute possibilité de bactéries là-dedans.
OK, est-ce que la conserve est fermée? Dans le fond, c'est cuit dans la conserve?
Oui, c'est cuit dans la conserve, okay. C'est ça. Tu sais, comme les petits pois, toutes ces affaires-là que tu trouves en conserve industrielle, c'est cuit dans les conserves, généralement. Okay. Je vous ai expliqué tantôt qu'il faut que ça soit très acide, très sucré. Ben, un ragoût, c'est ni acide ni sucré. Mm-hmm. Boulette de viande, à la limite, si tu as une sauce qui est super sucrée, ça peut peut-être passer. Mais c'est pas quelque chose que je conseille parce que, justement, il faut faire attention à une bactérie très, très mortelle. Le botulisme.
Ah oui, oui, ouais. Oui.
Botulisme, là, ça, c'est pas une sorte de tomate, comme tu disais tantôt. Hey, botulisme, ben, c'est une sorte de tomate.
Mais en fait, c'est, je disais ça un peu à la blague. Oui, oui, mais, oui. Ma blonde, elle me dit souvent, moi, j'aime beaucoup mettre, en fait, faire mariner mon huile, si on veut, mon huile d'olive en mettant de l'ail dedans.
Ouais.
Mais elle me déconseille de le laisser sur le comptoir trop longtemps, justement pour éviter que le botulisme rentre là-dedans,
ouais,
tu sais.
Oui. Ben, en réalité, le botulisme, le problème avec cette...
c'est un champignon.
Ce micro-organisme-là. Ben, c'est un micro-organisme. Le problème avec ça, c'est que ça se développe de façon anaérobique, c'est-à-dire sans air. Fait que ça peut se développer à plusieurs places. Je donne un exemple, tu sais, quand on travaille dans l'industrie puis qu'on fait des grosses bâches de sauce, mais c'est le même principe à la maison, là. C'est juste que c'est des choses peut-être qu'on entend un peu moins parler, mais quand tu fais une grosse bâche de sauce à spaghetti à la maison, moi, je me rappelle mes parents, là, puis mes grands-parents, sauce à spaghetti, là, elle sortait du four, là, elle passait 4-5 heures sur le comptoir à refroidir, là, avant de le canner ou avant de le mettre dans des pots, parce que c'était bien trop chaud pour mettre ça dans des pots. Mais c'est là que le botulisme va se développer. Il va se développer dans des grosses quantités de nourriture qui réchauffe tranquillement, qui refroidit tranquillement. C'est là que ça va se développer. Ça peut se développer aussi dans des fois certaines cuissons sous vide ou ça va se développer dans le canage aussi, quand c'est pas assez acide.
Y a-t-il moyen de voir quand
quelque
chose a été...
Pas vraiment.
OK.
Pas vraiment. C'est sûr que le goût peut être altéré, il peut avoir des odeurs, mais généralement, c'est pas une bactérie qui se détecte facilement.
C'est quelque chose qu'on peut mourir de ça ou c'est...
C'est une intoxication alimentaire, puis ça peut être quand même assez grave.
Ben, je veux dire, faut que t'en manges une tonne là, pour en mourir. Là.
Ça, je pourrais pas dire. Je veux pas m'avancer là-dessus exactement. Là,
on n'est pas
mais...
des médecins.
Non, c'est ça. Mais des façons de prévenir ça, c'est juste de bien faire le canage. T'sais, c'est important de suivre. Puis là, je parlerai pas de temps de cuisson des conserves puis tout ça aujourd'hui, là, parce que c'est pas vraiment dans un cours de conserve, mais c'est... Tu sais, quand vous allez chercher des recettes, respectez les temps de cuisson, respectez tout ça de la bonne façon, puis ça va être la meilleure façon de le faire en réalité.
Une autre façon qu'on peut conserver de toute façon nos récoltes à chaque année, il y a les canages, mais il y a aussi, tu sais, on peut congeler, on peut aussi mettre sous vide certains aliments.
Oui, ouais, exactement. De le mettre sous vide, ça revient à congeler éventuellement, là, parce que c'est sûr que même un aliment sous vide ne va pas se conserver plus longtemps. Pas nécessairement beaucoup plus longtemps. À température pièce ou frais, on s'entend, une pièce de viande, tu ne vas pas la conserver beaucoup plus longtemps. Mais le fait de le mettre sous vide, c'est juste de prévenir les engelures. Tu sais, les engelures l'hiver, là, quand on sort dehors l'hiver, on devient tout engelé. Fait que c'est ça, c'est de prévenir ça, de prévenir que la nourriture se dessèche à la congélation, tout simplement, parce que la congélation, c'est un certain mode de cuisson d'une certaine façon. T'sais. Fait que c'est ça. Moi, je te disais que j'avais commencé à déshydrater des choses aussi.
Ouais, tu m'as parlé de ça.
Ouais, j'ai pas fait beaucoup de recherches encore là-dessus. Mis à part que c'est vraiment bon au goût, c'est vraiment trippant. C'est une pomme séchée. Le goût, l'explosion de saveur. Tu sais, au début, tu te mets ça dans la bouche, mais bon, ça goûte pas grand-chose. Puis à un moment donné, paf, là, c'est comme une sangria. Un peu le même principe, mais sans les effets de l'alcool.
Et la fois, c'est comme les sucres se concentrent, si on veut, dans le fruit séché. Là.
Ben, c'est ça. Tu sais, puis comme je te disais, mes enfants, ils capotent là-dessus ces temps-ci. Fait que j'ai plus de facilité à leur faire manger des fruits séchés que des fruits frais.
Ah, ben oui. Ben, c'est sûr, quand on est enfant, les fruits, on dirait que c'est un peu péjoratif, mais c'est vrai d'un sens. Tu sais, on va tout aux pommes à l'automne. On revient toujours avec trop de pommes pour ce qu'on a réellement besoin. Puis tu sais, une fois qu'on a fait la croustade puis deux, trois tartes, à un moment donné, on fait comme bon, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Puis souvent, on les perd. En tout cas, dans mon cas, on les perd. On est juste deux chez nous. Là. Puis même si on achète juste un sac, on finit tout le temps par les perdre. Mais tu sais, les déshydrater, c'est une bonne façon aussi de faire ça. Puis, je pense que c'est assez facile à faire. Même au... Tu sais, mettons qu'on n'a pas de machine à déshydrater chez nous.
Ça peut se faire au four.
Faire ça au pot, au four, justement.
Au pot. On peut très bien faire ça au four. Il n'y a aucun problème. Puis... moi, en réalité, c'est juste une question que j'étais un peu paresseux. Puis moi, j'ai pas le goût de commencer à calculer mes temps au four, etc. Puis ça, fait que je pars ça dans mon déshydratateur. Puis déshydrateur. Puis...
Ah, les deux
pas...
se disent.
Hein? Ouais, non, je pense que c'est déshydrateur. C'est pas comme un adaptateur.
Non, c'est ça. Donc, c'est ça. les deux se disent en langage, en jargon québécois.
En jargon québécois, ben, non, voilà. C'est ça. Fait que dans mon déshydratateur, je peux mettre. J'ai cinq étages. Fait que je peux mettre quand même beaucoup de fruits dedans. Ça me donne généralement l'équivalent d'un ou deux pommassons de 500 ml. Fait que c'est quand même intéressant. Mais pourquoi on parle de tout ça? Ce que je trouve intéressant de ça, c'est qu'on a vraiment un retour depuis quelques années au côté plus local de la chose. Parce qu'on s'entend, dans les années 80-90, ça a été beaucoup l'industrialisation, le canage, puis on amenait beaucoup, beaucoup d'importations de fruits et de légumes, puis on a encore ça beaucoup aujourd'hui. Là, on s'entend les mangues, etc., ça vient d'ailleurs, puis on ne peut pas cultiver ça ici.
Évidemment.
Mais ce que j'aime de revenir un peu à « dans le temps », entre guillemets, c'est d'encourager une économie plus locale. T'sais, on s'entend que je pense que tout le monde le sait, les fraises québécoises, les fraises des États-Unis, C'est pas la même, pas en tout pareil.
Pas la même saveur même. Hein?
Non, c'est ça. Puis c'est sûr que, tu sais, quand on n'est pas dans la saison des fraises puis qu'on a conservé des fraises, que ça soit séché ou que ça soit congelé, on n'aura pas, le même plaisir à manger une fraise fraîche. Très dur à dire en passant. Pour moi, en tout cas. Donc, de pouvoir le conserver, bien, ça nous permet de pouvoir manger des fraises à d'autres temps de l'année que dans le temps des fraises, puis d'avoir un produit québécois.
Mais évidemment, c'est sûr que les fraises, tu sais, pour les conserver, on n'a comme pas le choix vraiment de les congeler sous vide, même souvent d'en faire un peu une purée. Fait que, tu sais, ouais. C'est sûr que ça nous permet de récupérer cette fraise-là, mais peut-être plus la manger en sorbet ou en coulis sur une bonne crème glacée ou même sur un dessert, écoute, une bonne tarte aux pommes qu'on avait avec un coulis de fraises.
Ouais. C'est exactement,
c'est un bon,
c'est
combo,
ça.
Exemple.
C'est ça, ben c'est ça. Tout ce qui est fruits, on ne peut pas les manger dans son élément d'origine. Il y a même une technique, c'est léophiliser. Je ne connais pas beaucoup, mais de mémoire, je crois que des produits comme ça, tu peux les réhydrater. Okay. Et revenir à la texture d'origine.
Ah ouais.
Ouais.
T'as-tu
ouais,
des
ouais.
idées de tu comme un exemple de légumes?
Ben en réalité, je pense que ça va même à des repas complets. Et encore une fois, là, je me lance un peu, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup, mais j'en ai vu un peu passer là, plusieurs années. Je voulais faire plus de camping, puis je voulais faire du camping vraiment comme sauvage, puis sans rien. Là. Fait que c'est quelque chose que j'avais commencé à regarder, des aliments léophilisés. Je pense que j'ai le terme correct. Là. Fait que c'est vraiment un espèce de sachet qui pourrait s'apparenter à des trucs un peu plus lunaires, là, tu sais, ce qu'on verrait comme dans...
La bouffe d'astronaute.
Oui, la bouffe d'astronaute, c'est ça. Fait que tu réhydrates ça, puis tu consommes ça. Ouais, j'imagine qu'on est plus dans des chilis ou des trucs comme ça, mais c'est un autre mode de conservation là, en réalité. Là.
Une chose que j'ai entendue qui m'a quand même surpris, je ne m'attendais pas à ça, les légumes racines.
Ouais.
Les patates, les carottes,
ouais.
Les panais. Mm-hmm. J'ai lu que ça pouvait se conserver là, pendant plusieurs mois au frigidaire. C'est-tu vrai, ça?
Oui. Ben, en fait, c'est ce qui prenait la majeure partie du potager québécois. Pommes de terre, toutes les légumes racines, parce que c'est quelque chose qui se conserve super longtemps. Ça peut, tout dépendamment, là, tu sais, si on inclut les courges là-dedans, ça peut se conserver jusqu'à un an. Là,
on peut passer l'hiver avec des patates, des carottes.
Oui, facilement. Là, ça, il n'y a aucun problème là, wow. avec ça. Je te parlais des courges, ça aussi, là, à l'automne, on s'entend, puis on arrive là, dans le temps des courges. On dirait que c'est un aliment qui est encore un peu méconnu. Juste la semaine dernière, au travail, j'ai rencontré une cliente qui me posait des questions. « Ah, mais comment tu la cuisines? » Puis tout ça. Fait que je pense que c'est encore assez méconnu qu'on parle de courges spaghetti, butternut, des pâtissons. Puis là, je viens de te nommer mes préférés. Mais il y en a...
Pourquoi
y en
est-ce
a,
que celles-là sont tes préférées? Est-ce qu'ils ont des particularités?
Oui. En fait, exemple, la courge spaghetti. Elle tient son nom du fait que quand sa chair, une fois qu'elle est cuite, ressemble à du spaghetti. Quand tu la sors... Ouais, c'est ça. Quand tu les filoches, ça a vraiment l'air du spaghetti. Et puis moi, je m'en sers vraiment comme ça. C'est drôle, les enfants ont vraiment aimé ça. Je fais une sauce à la viande, mais je m'arrange pour qu'elle soit plus fumée.
Okay.
Fait qu'avec le sucré de la courge spaghetti, c'est débile. Le goût est vraiment bon. C'est sûr qu'il y a des façons de la faire cuire. Là. Dans le fond, la meilleure façon, c'est de la couper en deux quand elle est crue. Des fois, je la cuis entière, mais j'aime un peu moins ça parce que la courge va retenir un peu plus son eau. Mais coupant en deux, la face coupée sur une plaque, puis on met ça au four, une vingtaine, trentaine de minutes, dépendamment là, de la grosseur de la courge. Ça fait que ton spaghetti n'est pas trop mouillé. T'sais. C'est comme quand tu te fais des pâtes que tu les égouttes, mais que tu les égouttes pas bien puis que tu mets ta sauce après. Fait que tu as un beau lac dans le fond. Là. C'est un peu le même principe. Fait que la courge spaghetti, c'est une de mes préférées pour ça. J'adore la manger comme ça. Ou des fois, juste avec un peu de beurre, sel, poivre, c'est hallucinant. La courge butternut, je l'aime celle-là parce qu'elle est super passe-partout. On peut s'en servir dans des biscuits un peu partout. C'est une courge qui s'épluche super bien au couteau de chef. Là. Ça prend quand même, parce que c'est coriace. Puis ça se cuit facilement aussi, puis rapidement. Fait que ça c'est une courge que j'aime. Puis de l'autre côté, les pâtissons.
Oui, pâtissons, c'est la première fois que j'entends parler de ça.
Ouais. Les pâtissons, c'est des... Ça, j'ai découvert ça dans mon cours de cuisine. Puis,
ouais,
c'est une petite courge, c'est minuscule. Là. Ça peut être la grosseur d'un radis ou peut-être un petit peu plus gros. Ça peut s'apparenter un peu plus à une courgette, si on veut. Puis moi, j'adore ça. Là. Tu fais cuire ça, tu fais sauter ça, un petit peu comme une courgette. Okay. Et puis, au niveau du goût, c'est super subtil. Puis, à toutes les fois que j'en mange, j'ai toujours l'impression que ça goûte un peu comme le thé vert. J'ai toujours aimé ce petit légume-là. Ça fait que ça fait différent, tu sais, que d'avoir tout le temps des courgettes sautées puis tout ça. Mais on peut y aller avec les pâtissons. Puis, c'est très bon.
Ah, ben c'est super le fun. Écoute, moi, je pense que d'un sens, on a fait une belle synthèse de ce que c'est la bouffe d'automne. Et sur ces bonnes paroles, nous, on vous souhaite de passer une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de La Table d'Hôte. Bye bye!